On est de retour à la table de Radio Vassivière sur la fête de la science à Ussel. Et j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui tient un stand sur cette fête et qui est Jean-Claude Champeau. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Claude Champeau, vous êtes passionné de photos, de photos animalières principalement ?
Absolument pas.
Absolument pas.
Si, je plaisante.
Et vous avez sorti un livre sur le chat forestier, c'est ça, en 2020.
Oui, en 2020.
Voilà, c'est un peu ce livre que vous venez présenter aujourd'hui à la Fête de la Science.
Oui, entre autres, et puis je viens aussi pour une association qui s'appelle Nature Limousine, qui veut apporter des connaissances sur la diversité du vivant, de sorte que la nature soit un peu moins abîmée par les humains, qui en sauront peut-être un petit peu plus grâce à nous et grâce à d'autres, et grâce à la Fête de la Science.
Alors le chat forestier c'est un sujet. Alors quand on pense photographie animalière, évidemment les premières images qu'on a c'est le lion dans la savane,
oui.
Voilà, la girafe, les éléphants, les espèces exotiques, mais il n'est pas besoin d'aller très très loin en fait pour trouver des choses vraiment passionnantes aussi à photographier, puisque le chat forestier, tout le monde ne le sait pas, hein, ça commence un peu à se savoir maintenant, mais c'est une espèce endémique de notre région.
Oui. Disons qu'il a la région, la montagne Limousine, on va la décrire comme ça, avec ses forêts, est un des derniers refuges en France du chat forestier qui a été tué, exterminé, on peut le dire carrément, empoisonné. Enfin, on lui a prêté des capacités prédatrices qui sont très au-delà de ce qu'il peut faire et de ce que représente son régime alimentaire. Il a survécu dans ces zones-là parce que l'agriculture, qu'on va décrire comme, par commodité de langage, productiviste, n'a pas trouvé sa place dans des terrains aussi escarpés, aussi boisés, aussi compliqués, avec des affleurements rocheux, avec tout ça. Donc il a subsisté ici, en Limousin, il a subsisté dans une partie des Vosges et du Jura, et dans quelques rares régions en France, comme le pied des Pyrénées, mais il avait disparu de partout, et quelquefois depuis beaucoup plus de 100 ans. Or, depuis que les premières mesures de protection ont été mises en place en 1979, sa condition s'est quand même améliorée. Il y a encore des fadas qui lui mettent un coup de fusil de temps en temps. En général, ça se finit pas très bien, parce qu'aujourd'hui, porter atteinte à la vie d'un chat forestier ou essayer de le prélever dans la nature, ça coûte 150 000 euros d'amende. C'est un peu dissuasif, alors c'est sans doute excessif, parce que ça n'apprend pas grand-chose à grand monde. Mais c'est un animal qui pourrait être l'emblème de la montagne Limousine par une capacité résiliente importante, une capacité d'adaptation. Il aime bien le couvert végétal, il est très discret. C'est sans doute ce qui l'a sauvé en partie. Et c'est ce qui fait un peu de l'imaginaire autour de ce plus petit félin d'Europe sauvage. Il est difficile à apercevoir.
Alors, il est difficile à percevoir, mais vous avez réussi à l'apercevoir, puisque vous l'avez même photographié à de nombreuses reprises.
Oui, c'est parce que j'ai beaucoup de chance.
Voilà, beaucoup de chance. Peut-être un peu de persévérance aussi.
Oui, il en faut. Il faut accepter quelquefois, mais là, les photographes vous le diront, les photographes animaliers, il faut accepter le froid, il faut accepter le chaud, il faut accepter les petits moucherons qui vous piquent à la lisière
les fameux du cuir
chevelu. Oui, ils sont vraiment... on a des envies de meurtre sur les moucherons. Mais bon, on résiste, et puis voilà, puis on a raison. Quand on a envie d'arriver à quelque chose, le point de départ a lieu sur la commune de La Noaille en Creuse, où avec mon frère on fait une petite balade, et puis nous arrivons à côté des vestiges d'une fouille archéologique, un tumulus de 450 avant notre ère, et puis un peu plus loin dans la forêt de sapins, il y en a un autre mais qui n'a pas pu être reconstitué, et nous allons là-bas et là nous découvrons trois bébés chats forestiers qui sont là parmi les pierres et qui vont se cacher à notre vue. Donc ce jour-là, j'acquiers la certitude que le plus petit félin d'Europe n'a pas disparu du Limousin. Et à partir de ce jour-là, à partir de mai 2012, je vais le chercher partout, je vais me renseigner sur Internet, partout où je peux avoir des infos, et je le cherche dans la nature. Et de temps en temps, je le vois, je l'observe, je prends des notes, je fais quelques photos quand j'ai beaucoup, beaucoup de chance, et j'en ai eu pas mal.
Alors comment on reconnaît, parce que souvent moi je croise des chats comme ça sur la route en roulant, on les voit, on se dit ah mais ici il n'y a pas d'habitation. Alors on sait que les chats peuvent aller loin,
oui.
Mais alors qu'est-ce qui peut nous donner un signe que c'est peut-être un chat forestier par rapport à un chat domestique classique?
C'est pas bien facile. Si on veut le comparer à un chat domestique tigré, c'est compliqué. On sait qu'il est systématiquement de couleur un peu fauve, avec des détails du pelage qui sont assez peu visibles, qui sont plus foncés, qui sont noirâtres, des points et des raies. Il a une queue assez grosse. C'est un grand chat. C'est juste un grand chat. Un mâle adulte pèse 5 kg. Il y a beaucoup de chats domestiques qui font plus que ça. Une femelle, 3,5 kg. Quand elle attend ses petits, elle prend 1 kg. C'est pas un gros animal. Par contre, il a un signe très particulier qu'on ne va pas trouver sur d'autres sous-espèces de chats. C'est une ligne noire qui suit la colonne vertébrale entre les omoplates, on va dire, et la naissance de la queue.
Et donc, alors, vous l'avez photographié, vous l'exposez. Ouais. Est-ce que vous avez, vous êtes un peu une sorte de défenseur du chat forestier? Vous avez cherché à le faire connaître aussi pour,
oui, bien sûr.
Pour le protéger?
Pendant longtemps, je l'ai observé, photographié, mais je ne montrais pas les photos, à part à des proches, à des gens très proches. Et je me disais, si je parle de l'endroit où je l'ai vu, il va bien y avoir un fada qui va monter avec une carabine et essayer de le tuer. Bon, et puis, de temps en temps, des potes me disaient, mais tu as tort, au contraire, tu devrais prendre le contre-pied, dire où tu les vois, et ça attirerait des gens sur le site, et du coup, il en serait peut-être davantage protégé. Et j'ai fini par adopter cette façon de voir les choses. Et puis un jour, en février 2019, lors d'une observation, un chat va venir vraiment très près de moi, ce qui est totalement anormal et inespéré pour un photographe naturaliste. Il est venu tellement près que je ne pouvais plus dézoomer avec mon appareil photo. Je l'avais vraiment plein cadre. Il m'a regardé longuement et il est parti. Et quand je suis rentré, j'ai même espéré voir mon image dans ses yeux. Alors évidemment, ça n'était pas le cas, c'est heureux au final. Mais ça a été un déclencheur pour partager les photos et tout ce que j'avais noté, etc. Et j'ai fini par sortir un livre.
Alors, un livre, un très beau livre hein, qu'on a pu voir sur votre stand. Un grand format avec des beaux tirages photos dedans. On peut le trouver où, ce livre?
Ou alors on peut quasiment plus le trouver parce qu'il doit en rester qu'une vingtaine d'exemplaires. Il faut que je le réédite.
Alors il est peut-être plus difficile à trouver que le chat forestier lui-même, c'est ça?
Oui, presque. Oui. Il en reste dans quelques points de vente en Corrèze, mais vraiment très peu.
Donc on va pas les donner. Donc comme ça, c'est ceux qui ont de la chance pour
Les trouver. À la librairie du Sel, au supermarché Leclerc du Sel. Et puis il y en a dans d'autres communes en Haute-Corrèze.
Il s'appelle comment ce livre?
Il s'appelle « Sur la piste du chat sauvage ».
Voilà, donc « Sur la piste du chat sauvage » de Jean-Claude Champeau, voilà, qu'on peut retrouver. Puis sinon, on peut retrouver vos photos un petit peu dans des expositions, parfois avec les associations.
Oui, c'est la première fois, enfin là c'est la troisième exposition que je fais, mais c'est la première fois que je me décide à faire imprimer par une imprimerie très spécialisée des photos en assez grand format. J'avais jamais osé avant.
Spécialement là pour le village de la science.
Oui, ça a été calculé comme ça, ouais. J'étais présent sur la fête de la science à Aubusson la semaine dernière sur 2 jours et puis là ça s'est déclenché assez rapidement.
Alors pour finir un peu sur la fête de la science justement, là vous êtes pas n'importe où, vous êtes un endroit où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, d'ados qui passent. Oui. Vous avez eu, j'imagine, pas mal d'échanges avec eux dans la journée.
Oui. Et oui, ils posent des questions extrêmement pertinentes et pointues qui bousculent un peu le garçon. Par rapport à ça, je vais presque parler en tant que président de Nature Limousine. Les progrès scientifiques, les découvertes technologiques, c'est forcément très intéressant. Ça peut améliorer la vie des humains, ça peut faciliter le travail, ça peut permettre d'aller plus vite dans des domaines qui sont cruciaux. Mais il faut toujours penser, avec l'expérience du passé, que tous les progrès, toutes les découvertes, il faut qu'elles trouvent leur place sans trop abîmer la nature, sans trop abîmer la diversité du vivant. Et c'est des choses qu'on a découvertes il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on aurait pu éviter quant aux effets extrêmement néfastes de certaines nouvelles technologies. Et on n'est pas tout à fait en état d'analyser les choses par rapport, par exemple, à la voiture électrique, dont actuellement l'impact environnemental est plus néfaste que celui d'une voiture diesel. Si on prend en considération la totalité du processus, à partir du moment où on creuse pour extraire le minerai qui va permettre de fabriquer les batteries, jusqu'au recyclage, on n'est pas bon. Parce qu'on est dans la précipitation et on a tort. On ne va pas gagner du temps, on ne va pas gagner beaucoup sur la pollution. On va beaucoup embêter les gens et poser des problèmes qu'il faudra résoudre dans quelques années. Donc il faut arriver à trouver des solutions pour que les choses s'harmonisent un petit peu mieux, pour que les progrès qui sont faits par les découvertes humaines n'abîment pas trop notre environnement, parce que c'est le jour où l'absence de certaines espèces animales, insectes, végétaux, le jour où ils ne sont plus là, on s'aperçoit du vide que ça fait et de l'impact négatif que ça a sur l'ensemble de l'environnement. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. En Limousin, sur les trois départements, avec la montagne Limousine, avec la qualité environnementale que nous avons su préserver ou que, par chance, dont nous pouvons bénéficier, on a vraiment intérêt à faire attention de ne pas copier ce qui s'est passé ailleurs, où on est allé trop vite, où on est allé trop vers une agriculture industrielle qui a fait beaucoup de dégâts, qui a nourri à des moments où c'était nécessaire. Là, maintenant, on a le droit de se poser des questions. Les agriculteurs ont le droit eux-mêmes de s'en poser. Et nous devons penser à l'avenir. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'en parler avec des enfants, avec des collégiens, des lycéens. Là, on a vraiment affaire à la génération qui va prendre en charge tout ça. De toute façon, elle n'aura pas bien le choix dans quelques années. Et c'est plutôt enthousiasmant de ce point de vue-là.
Merci, Jean-Claude Champeau.
Avec plaisir. Au revoir, merci, à bientôt.
À bientôt.